Nutri Radio présente le Nutri Talk Gala. Pour la troisième année consécutive, le Nutri Talk Gala revient avec un moment unique mêlant expertise santé et divertissement. Cette année, un plateau d'experts exceptionnel pour mieux comprendre les hormones, le métabolisme et la longévité. Réginald Allouche, médecin, chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Et Philippe Gérard, directeur de la recherche à l'INRAE, spécialiste du microbiote intestinal et du métabolisme. Référence scientifique internationale sur Akkermansia. Programme complet. Intervenants et renseignements sur NutriTalkGala.fr.
La santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.
Bonjour professeur Castronovo.
Bonjour professeur Fabrizio, tout bien?
Ça va, professeur, c'est un quand je vois qui est professeur comme vous, c'est un titre que je n'ose pas m'approprier, bien évidemment. Merci d'être avec nous, comme chaque vendredi. Alors, il y a eu quelques semaines de vacances, tout ça, vous êtes très occupé, mais vous êtes toujours fidèle au rendez-vous. Comment allez-vous?
Je vais très bien, et vous?
Ça va, d'autant que je remercie les auditeurs d'être de plus en plus nombreux à écouter ces émissions, à nous signaler aussi quand vous n'êtes point là, et donc rassurez-vous, on va d'ailleurs poursuivre le sens de la conversation de la semaine dernière, puisque vous avez parlé, enfin de la dernière fois, puisque vous avez parlé du fer, du transport de l'oxygène, de son statut martial, etc. Enfin bon, je vous invite à réécouter ce podcast qui est déjà disponible. Et donc, je remercie les auditeurs. Pensez à vous abonner aussi si vous nous suivez en podcast sur les plateformes, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur Deezer. Donc, comme je sais que vous avez beaucoup de choses à dire sur ce sujet, on va aller directement dans le vif de cette thématique. Et donc, puisque vous avez évoqué en fin d'émission sur le fer une molécule clé, l'hepcidine, est-ce qu'on peut dire que c'est elle qui décide si le fer circule ou s'il reste bloqué?
L'hepcidine est donc considérée comme une cytokine inflammatoire. Cytokine, ce sont une famille de molécules que le système immunitaire va déployer pour lutter contre un potentiel ennemi. Alors, pour rappel, je vous ai expliqué la fois passée que le fer est un métal qui est indispensable à la croissance d'énormément de bactéries, surtout les plus agressives, les bactéries pathogènes. Et donc, logiquement, le corps, lorsqu'il se sent agressé, il va d'abord séquestrer le fer en augmentant le stockage par la ferritine, okay, parfois au point que le fer n'est plus disponible pour assurer l'hématopoïèse, c'est-à-dire la production de globules rouges, et on a ce qu'on appelle des anémies inflammatoires. Mais également, si cette agression perdure, eh bien, l'organisme va développer cette molécule hepcidine qui est produite par le foie et qui va bloquer l'absorption du fer, qu'il soit d'origine alimentaire, que ce soit du fer minéral ou du fer héminique, c'est-à-dire associé à l'hémoglobine ou à la myoglobine, au sang ou à la viande rouge. Et d'autre part, il va empêcher que les cellules qui stockent le fer recyclé des globules rouges qui ont eu leur fin de vie, qui ont été recyclées, phagocytées et prises en charge par des macrophages, des cellules du système immunitaire également inné, eh bien, le fer ne peut sortir ou rentrer que par un portail qu'on appelle la ferroportine. Okay? Et donc, si cette ferroportine est bloquée par l'hepcidine, le fer n'est plus accessible, ni via l'alimentation. Et souvent, des patients qui sont carencés en fer vont prendre du fer et ne vont pas avoir d'amélioration de leur statut. Dans ce cas-là, soit il faut traiter la cause de l'inflammation, soit si on veut aider le patient à aller mieux, puisque je vous ai expliqué que la carence en fer a bien d'autres conséquences que l'anémie, c'est la partie terminale anémie, et qu'on doit s'occuper de la carence fonctionnelle en fer, puisque le fer sert à produire, à faire fonctionner nos centrales productrices d'énergie que sont les mitochondries. Le fer est indispensable à la détoxication, le fer est indispensable à la synthèse de neuromédiateurs, le fer est indispensable à la bioactivation de la vitamine D, etc., etc. Et donc, on peut avoir énormément de symptômes qui ne seront pas associés à l'anémie. Et chez ces patients, moi j'ai beaucoup de patients qui, en inflammation avec l'hepcidine, ont ressuscité en leur perfusant du fer. Cette perfusion de fer doit se faire sous contrôle médical, et évidemment, mais est d'une efficacité redoutable.
Ressusciter,
évidemment, il faut ressusciter.
Ah ouais,
c'est-à-dire,
rien que ça.
Des patients qui étaient complètement effondrés, qui n'avaient plus d'énergie, qui étaient déprimés, eh bien, ils voient un élan vital qui renaît, parce que justement, ce fer est indispensable pour toutes ces réactions, et notamment, et des patients qui n'étaient pas anémiques. Donc, l'hepcidine, quand si vous êtes fatigué, vous avez une carence en fer, qu'en prenant du fer, vous n'allez pas bien. Et est-ce que vous rappelez pourquoi parfois le fer est très mal toléré? Que faut-il vérifier?
Il faut vérifier son niveau de ferritine.
Non, non. Non, par de simples questions. Oui. Le fer est souvent très mal toléré au niveau digestif. Je vous donne petit...
microbiote.
Et qu'est-ce qui se passe? Microbiote, oui. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le patient va mal... Dans quelles circonstances, mon ami,
oui,
le fer va-t-il être mal toléré par le microbiote?
En cas d'inflammation. En fait,
non, non. Je vous ai donné la réponse en commençant mon propos. Mais je vois que probablement vous êtes en train de faire autre chose que de m'écouter.
Non, mais je vous écoute, je vous écoute. C'est un manque de production de globules rouges.
Non, mais non. En fait, beaucoup de patients qui... Vous savez que la plupart des gens, ou en tout cas une grande majorité, souffrent de dysbiose. C'est-à-dire une altération de la qualité du microbiote intestinal, avec souvent une prolifération de bactéries qui ne sont pas nos amis, de bactéries de putréfaction, des grammes moins. Et justement, ces bactéries, si vous leur donnez du fer, elles prolifèrent encore plus, okay, puisque c'est un facteur limitant de leur développement. Donc, quand vous rendez du fer à un patient qui a une dysbiose et qui vous n'avez pas corrigé sa dysbiose, eh bien, vous allez potentiellement aggraver la dysbiose. Et le patient va avoir des symptômes digestifs qui vont être plus importants. Donc, c'est pour ça que parfois, mieux vaut corriger la dysbiose avant de supplémenter en fer. Éventuellement, si le patient est vraiment à la fin de sa vie parce qu'il est trop fatigué, de le perfuser en fer, parce que le fer perfusé ne va pas aller nécessairement dans l'intestin. Et éventuellement, on va rendre une capacité à renouveler l'intestin et à rétablir un équilibre au niveau de son microbiote. Donc l'hepcidine, extrêmement intéressante pour la prise en charge et le diagnostic des patients fatigués qui sont carencés en fer.
Alors mon cher Vincent, excusez-moi de vous interrompre, mais on va marquer une toute petite pause et puis après, question, est-ce que peut-être que c'est
mais
trop...
Vous ne m'interrompez pas, je me suis arrêté de parler.
Oui, mais donc, est-ce que votre micro, je vais vous dire, le micro, je ne sais pas si, quand vous réécouterez cette émission, vous comprendrez ce que je veux dire, parce que parfois ça sature et ça bloque un peu, je ne sais pas si vous parlez ou si vous continuez, mais avant que vous puissiez continuer d'une manière un petit peu ininterrompue, vous voyez, là par exemple, c'est, on n'a pas bien entendu ce que vous disiez, mais on va marquer une toute petite pause et après la question...
C'est un nouveau micro.
Ah, ben, nouveau micro, ben, je peux vous dire que je préférais l'ancien. Je préférais l'ancien.
Attends,
oui. Aïe, 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 oh, c'est dur. Mais la foirefouille, ça y est, ça fait pas de bon micro. Hein. On marque une pause et après, je vais vous poser la question, est-ce qu'il faut se complémenter ou pas, en sachant que les informations que vous donnez, là, on parle d'un cadre médical, hein, donc forcément, ça se substitue pas à un traitement, puisque vous l'avez dit vous-même, de toute façon, tout ce qui est perfusion en fer, ça se fait sous contrôle médical, bien évidemment. Donc, on marque une toute petite pause et après, on va essayer de parler de la complémentation et on va revenir aussi sur l'hepcidine, évidemment.
Découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99€ par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr.
La santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.
Et avec le professeur Vincenzo Castronovo, qu'il est beau le micro, qu'il est beau mon micro, ce micro exceptionnel. On parle de l'hepcidine. Comment ?
Il s'appelle Yeti.
Ils appellent Yeti.
Yeti.
Ah, et oui. Yeti. Et ceux qui l'ont vu dans la montagne ont eu des problèmes, ce petit Yeti. Bon, l'Epsilin, on parle du fer, mais par rapport à ce que vous dites sur le fer, son importance, ok. Certains pensent qu'une complémentation en fer est complètement à proscrire, que c'est dangereux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Oui, notamment mon ami Jean-Paul Curté, qui rentre en convulsion si on parle de supplémentation en fer. En fait, le fer, et c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est-à-dire que en excès, il est très mauvais, mais en carence également. En fait, en excès, le fer peut provoquer un stress oxydant parce qu'il va privilégier une réaction qui est extrêmement délétère, ce qu'on appelle la réaction de Fenton, où le fer va conduire à la production d'un radical libre extrêmement agressif, le radical hydroxyle. Mais en carence, la carence en fer va produire également un stress oxydant parce que, pour ceux qui s'y connaissent un peu en mitochondrie, vous savez que lors de la transformation de l'énergie chimique des carburants que sont les carbohydrates et les acides gras, cette énergie, elle est véhiculée par les électrons et que ces électrons extraits à ces carburants sont extrêmement énergétiques et ils doivent être refroidis en passant par une succession de moulins qu'on appelle les moulins à électrons au cours d'un processus qu'on appelle la phosphorylation oxydative. Okay ? Et donc, dans ce cadre, lorsque des électrons tombent prématurément parce que les moulins n'ont pas l'atome de fer qui leur est important pour leur fonctionnement, eh bien, l'électron est capté par l'oxygène et va occasionner la production de radical superoxyde, qui est un radical libre également extrêmement agressif. Donc, en carence, produit des radicaux libres, en excès également. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il faut jamais complémenter en fer sans avoir une évaluation du statut en fer qui se fait, je le rappellerai jamais assez, par un dosage de trois paramètres, la ferritine, la transférine, le camion transporteur et le remplissage de ces camions, le pourcentage de saturation de la transférine.
Ben là, vous ne m'avez pas posé la question, mais si vous me l'aviez posé, je vous aurais dit exactement la même chose. Donc, vous voyez, je vous écoute attentivement. Mais combien, parce que quand on connaît l'importance du fer, est-ce qu'il faut faire des bilans et connaître son statut en fer principalement, mais il faudrait le faire tous les combien
Ça dépend de votre état de santé, mon petit. Vous, par exemple, qui êtes à la bourre tout le temps un peu fatigué, je ferai tous les 6 mois un petit bilan martial, ne ferai pas de tort. Hein.
Ah ok, je le note, parce que je n'ai jamais fait en plus.
Mais surtout, chez les jeunes filles, quand elles commencent leur cycle ovulatoire, ou en fonction éventuellement de troubles du cycle avec beaucoup d'hémorragie, là, je pense qu'il est utile de faire régulièrement un statut martial et de corriger au fur et à mesure de l'évolution de ce statut.
Très bien. Vincenzo, vous avez évoqué tout à l'heure en première partie la ferroportine. Quel est son rôle exact ? On peut revenir dessus un petit moment ?
La ferroportine, c'est une porte qui ouvre la voie pour que le fer puisse rentrer dans la circulation sanguine. Ok ? Et qui va être cadenassé par l'epsidine. Donc, normalement, dans les conditions optimales, lorsque le fer s'accumule dans l'entérocyte, la cellule intestinale, ou dans les macrophages du système réticulo-histiocytaire hépatomédulosplénique, c'est-à-dire dans la rate, dans le foie et dans la moelle, eh bien, ces macrophages qui gardent en réserve le fer vont laisser rentrer le fer dans la circulation en ouvrant la porte qui sera cadenassée par l'epsidine pour empêcher le fer d'être utilisé par les mauvaises bactéries. Mais le problème, c'est que notre système immunitaire inné ne fait pas la différence entre une inflammation septique liée à un intrus ou une inflammation aseptique comme une maladie auto-immune ou un traumatisme. Comprenez-vous ?
Ah oui, sinon ce serait trop simple.
Oui, donc l'inflammation peut être une réponse à une destruction de tissu occasionnée par un traumatisme chimique ou physique. Dans ce cas-là, eh bien, le système immunitaire inné pense que l'agression c'est une bactérie et va supprimer l'absorption du fer. Donc c'est un peu une réaction un peu primaire qui n'est pas appropriée.
Et comment on peut différencier une anémie, en faire d'une anémie inflammatoire?
Eh ben, une anémie inflammatoire, la ferritine est élevée, la saturation transférine est basse, voilà. Et une anémie ferriprive, la ferritine est basse et la saturation est basse.
Et pourquoi la ferritine, elle peut être élevée alors que la personne, elle est fatiguée et manque de fer fonctionnellement, quoi?
Ben parce qu'elle est en inflammation, soit septique, soit aseptique, et que le système immunitaire, première stratégie, c'est de séquestrer le fer.
Eh oui, ok. D'accord, ça rejoint ce que vous avez dit depuis le début, c'est ce que vous pouvez me dire, hein, Norma, mais il faut que ça rentre. Hein. Vous savez, c'est pas si évident que ça d'avoir ces infos.
Justement, vous savez, un des premiers symptômes de la carence en fer bioactive, c'est le déficit de cognitif, de mémoire et de raisonnement. Donc je pense que peut-être tous les mois, ce serait bien pour vous un petit statut martial.
Un petit statut martial en fer, vous avez raison. Mais ça explique en tout cas ce que vous venez d'expliquer, que les patients peuvent prendre du fer pendant des mois sans amélioration, ça c'est clair.
Et alors, absolument, évidemment. Et plutôt même avec une aggravation. Mmh. Puisque, mon petit Fabrice, si vous aggravez la dysbiose intestinale, vous favorisez l'intestin hyperporeux, qu'on appelle leaky gut, et ce leaky gut est la base d'une inflammation chronique. Donc, vous voyez le cercle vicieux. Et c'est pourquoi il est important d'être éthiopathogénique. Mais que veut dire ce mot, éthiopathogénique, mon petit carencé en fer?
Mais si je vous donne la définition exacte, c'est bon?
C'est très bon.
Bon, alors éthiopathogénique, vous l'avez dit dans l'émission il y a 3 semaines, donc je m'en souviens exactement, c'est l'étude de la cause de la maladie, savoir si on va étudier la biologie, les mécanismes par lesquels elle se développe.
Les racines du mal. D'où est-ce que le problème a commencé? En fait,
je vais vous le dire. Alors ma voisine, la semaine dernière. Non, je plaisante. Allez-y, professeur.
Alors j'ai une question. Pourquoi, à votre avis, les femmes ont-elles besoin de moins boire d'alcool pour être un peu pompettes?
Ah, ça, aucune idée. Dites-nous.
Parce qu'elles sont plus souvent carencées en fer, ok, et que les enzymes de détoxication de l'alcool, qui est la citron-oxydase 2EA, ne fonctionnent pas bien s'il n'y a pas assez de fer. Donc, ce qui veut dire que cette enzyme transforme l'éthanol en acétaldéhyde, c'est la molécule métabolique qui donne la gueule de bois. Et donc, elles vont avoir un ralentissement de la détoxication. Leur taux d'éthanol va rester élevé plus longtemps. Et donc, au fur et à mesure qu'elles boivent, elles auront un taux d'éthanol. Et ça coûte beaucoup moins cher pour une dame de se mettre en état d'ébriété que pour un homme.
Très bien.
Intéressant.
Oui, c'est intéressant. Maintenant, on a l'explication biologique. Et puisque vous êtes le maître de la mitochondrie avec cette mitochondriale académie que vous avez lancée, la question, je suis obligé de vous la poser. Quel est l'impact d'un fer bloqué sur la mitochondrie, sur la chaîne respiratoire mitochondriale?
Une diminution de la production d'ATP, une augmentation de la production de radicaux libres.
Tout simplement.
Catastrophe. Tout simplement, voilà. Et donc, je vais faire un peu de pub. Je sais qu'on ne serait peut-être pas là, mais au mois de mai, il y aura au Pont du Gard, dans le cadre du potentiel humain, vous êtes invité, mais je sais que vous êtes fort occupé. Okay, il y aura un week-end qui sera consacré à la mitochondrie. Et à cette occasion-là, je dédicacerai mon premier livre qui concerne la mitochondrie. Et donc, il y a moyen de le précommander. Je vais vous envoyer les coordonnées que vous pourrez mettre sur le site, bien entendu, car je connais votre générosité. Et ça s'appelle mitochondrie, source d'énergie, de santé et de longévité.
En tout cas, force est de constater que depuis que vous parlez et vous avez parlé de médecine mitochondriale, force est de constater que de plus en plus, ça se déploie et de plus en plus, tout le monde reprend ça. Donc vous étiez un peu visionnaire sur ce coup-là, mon cher Vincenzo, comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire.
J'en parle depuis 25 ans, vous savez. Et d'ailleurs, je relate un peu les moqueries de mes collègues quand il y a 25 ans, on disait que la mitochondrie était à l'origine de plein de maux. Et on a bien rigolé parce que, voilà, donc il faudra lire l'introduction de mon livre pour comprendre un peu quelle était la situation à l'époque, il y a 30 ans.
Merci beaucoup en tout cas Vincenzo Castronovo. On va se retrouver la semaine prochaine, cette émission est à retrouver en podcast maintenant, hein, si vous venez d'arriver sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Vincenzo.
À la semaine prochaine.
La santé selon Castronovo. Vincenzo Castronovo sur Nutri Radio.